CITV vous présente « Bonjour chez vous », l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs.
Bonjour et bienvenue sur le plateau de « Bonjour chez vous ». Aujourd'hui, nous allons voir quelle est la prochaine étape après la nouvelle naissance. Bonjour à tous.
Bonjour.
Aujourd'hui, une émission spéciale pour les nouveaux convertis. Et ça me paraissait vraiment important d'avoir un outil vraiment facile, accessible pour les nouveaux convertis. Alors, si vous nous écoutez, vous n'êtes pas un nouveau converti, vous vous dites « Oh, je ne suis pas concerné par cette émission », pas du tout. Parce que notre mandat à tous, c'est de faire des disciples. Et je crois que cette émission va vous apporter vraiment des clés et va même pouvoir être un outil que vous pourrez partager aux personnes que vous allez amener au Seigneur. Donc, ne changez pas de chaîne tout de suite ou ne coupez pas la vidéo. Au contraire, il y a vraiment plein de choses formidables qui vont vous être apportées dans cette émission. Et Pasteur Omer, tu vas faire un pasteur, j'ai une question aujourd'hui. Tu vas répondre à la question de Patrick de la Centrafrique qui demande comment éviter les distractions en méditant la parole de Dieu.
Effectivement, une question importante, une question essentielle qui aide à la croissance du chrétien.
Tout à fait, tout à fait. Et toi Nadine, le livre de la semaine, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui?
Ben, c'est très drôle que tu aies dit que l'émission est pour les nouveaux convertis et même ceux qui sont dans le Seigneur depuis longtemps, parce que ce livre ici, Bienvenue dans la famille de Dieu, c'est un guide essentiel pour le nouveau converti, mais pour l'avoir lu, j'ai découvert plein de belles choses aussi pour nous qui marchons dans le Seigneur depuis plus longtemps, donc un livre à recommander à lire tout à l'heure.
Génial! Et Aurélie, on a un beau témoignage en fin d'émission.
Oui, le témoignage de Zamir, un frère du Cameroun. Oh, et il a suivi une bonne étape, en fait. Il a suivi des bonnes étapes par rapport au nouveau converti. Et on va voir ce qui lui est arrivé à la fin de l'émission.
C'est formidable. Donc, une belle émission en perspective. Je suis personnellement super contente qu'on parle de ce thème-là parce que je trouve que c'est important. Mmh. Et on commence tout de suite avec toi, Michael, dans la pensée du jour.
Alors, quelles sont les prochaines étapes après la nouvelle naissance, après votre conversion? Et aujourd'hui, je vais vous partager 10 conseils que je juge les plus importants, primordiaux pour les nouveaux convertis. Mmh. Alors, j'aimerais vous dire, même si ça fait quelques semaines ou quelques mois que vous êtes entrés dans le royaume de Dieu, bienvenue dans la famille, parce que nous formons vraiment une famille, la plus belle famille du monde, la famille des frères et sœurs dans la foi en Jésus-Christ. Mmh. Et si Jésus-Christ, vous l'avez confessé comme votre sauveur et votre Seigneur, alors vous êtes entré dans le royaume de Dieu. Alors le premier conseil que je donnerai donc à un nouveau converti, c'est faites-vous baptiser dans l'eau. Jésus a dit dans Marc 16:16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais pourquoi se faire baptiser? Pourquoi être plongé dans l'eau et ressortir après de l'eau? Bah parce que déjà, c'est un acte d'obéissance. On n'a pas forcément besoin de tout comprendre. Déjà, le Seigneur Jésus à qui vous avez donné votre vie, qui est devenu votre Seigneur, votre Dieu, vous demande de vous faire baptiser. Donc, sur sa parole, obéissez. Le baptême d'eau, c'est le premier acte d'obéissance du croyant. Mmh. Et j'aimerais dire aussi qu'il y a une puissance libératrice dans le baptême d'eau. Le baptême d'eau, c'est pas juste un acte, un rituel, mais quand vous vous ferez baptiser, croyez que les chaînes et les liens que vous aviez avec le monde et que le diable a encore, peut avoir encore dans votre vie, soient brisés au moment du baptême d'eau. Mmh. Il y a quelques semaines, un pasteur m'a dit, mais Michael, pourquoi quand toi tu baptises d'eau les gens, la plupart du temps, les gens ressortent et sont libérés, et on voit que le diable lâche leur vie? Je dis, simplement parce que je n'applique pas un rituel, j'applique ma foi. Et je crois que quand il plonge, Satan n'a plus aucun pouvoir et il ressort en nouveauté de vie.
Alléluia.
Donc faites-vous baptiser et libérez votre foi. Deuxième conseil, fréquentez chaque semaine une bonne église locale où vous vous sentez bien. L'église locale, ce n'est pas l'idée d'un homme, ce n'est pas l'idée des hommes, c'est Jésus-Christ qui a lui-même institué l'église locale. Et si vous lisez la Bible dans Apocalypse, vous verrez que Jésus envoie des lettres à qui? Aux 7 églises de l'Asie. Donc, des églises locales, aux pasteurs des églises. Donc, l'église locale, c'est déjà le plan de Jésus-Christ, l'idée de Jésus-Christ. Pourquoi aller dans une église locale? Bah, premièrement, parce que vous avez un pasteur qui a eu reçu de Dieu une grâce pour prendre soin des brebis, pour prendre soin de vous. Et il y a des aînés, des personnes plus affermies dans la foi, qui pourront vous aider dans les temps de difficultés que vous traverserez. Deuxièmement, pourquoi ? Parce que dans l'église locale, vous vivrez la communion fraternelle avec les frères et sœurs. Mmh. Et ça fait tellement de bien pour grandir et être nourri et servir dans l'église locale pour une croissance saine. Et vous irez à l'église locale, pourquoi vous devez y aller ? Parce que Dieu veut aussi une adoration collective et pas simplement qu'on l'adore à la maison chez nous. Il veut que le peuple se rassemble dans la grande assemblée. Et comme le psalmiste le dit, il y a une bénédiction particulière qui coule sur chaque croyant quand on se rassemble au nom du Seigneur Jésus. Le troisième conseil que j'aimerais vous donner, c'est obéissez à tous les commandements du Seigneur Jésus. Quand vous êtes rentré dans le royaume de Dieu, vous avez abandonné votre vie à Jésus-Christ, vous lui avez donné votre vie. Puisqu'il est devenu votre raison de vivre et celui qui est en autorité sur votre vie, découvrez dans la parole de Dieu, lisez les quatre évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, et prenez chaque parole de Jésus-Christ, notez-les, et quand cette parole vous parle, appliquez-la et mettez-la en pratique dans votre vie. Tout ce que Jésus a dit se résume et est englobé dans un seul commandement. Dans deux commandements, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc Jésus nous demande de pardonner, Jésus nous demande d'aimer, Jésus nous demande de faire tout un tas de choses. Découvrez ce qu'il a à dire et faites-le, obéissez à ce que le Seigneur vous dit. Quatrième conseil que je vous donne, c'est séparez-vous des mauvaises relations et des mauvaises habitudes. Le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5 que si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Jésus voulait dire par là, si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Ce qu'il veut dire, c'est que parfois, il y a des décisions qu'on doit prendre pour Dieu, pour rester dans les voies de Dieu qui vont nous coûter très cher, qui vont nous faire mal, mais il ne faut pas avoir peur d'avoir mal. Et lorsque vous changez de vie, les gens autour de vous ne vont pas forcément comprendre et ils vont tout faire. Le diable va utiliser les personnes qui sont proches de vous pour vous ramener dans vos anciennes habitudes, dans vos anciennes relations. Et vous devez être ferme, comme Jésus l'a dit, même si ça fait mal, couper avec ces relations qui sont toxiques, nocives pour vous et couper avec les mauvaises habitudes de péché que vous pouviez avoir autrefois. Cinquième conseil que je vous donne, c'est lisez et méditez la parole de Dieu chaque jour pour connaître Dieu. C'est dans la parole de Dieu, la Bible, que vous allez connaître la volonté de Dieu, que vous allez découvrir le cœur de Dieu, son cœur d'amour, son cœur de compassion pour vous. C'est dans la parole de Dieu que vous allez découvrir les principes du royaume de Dieu et les exigences du royaume de Dieu, ce que Dieu attend de vous. Et sans lire la parole, vous ne pourrez pas vraiment connaître Dieu. C'est à travers sa parole révélée que Dieu se révèle à vous. Un pasteur m'a dit un jour, 90% du temps, Dieu nous parle par sa parole écrite, la Bible. Amen. Et au début, j'étais jeune converti, j'étais pas tout à fait d'accord, mais aujourd'hui, avec des années de conversion, je peux dire oui, ce pasteur a raison. Amen. La Bible, c'est indispensable. Alors, dans la discussion, on va parler des 5 autres conseils. Faites du Saint-Esprit votre meilleur partenaire. Développez une vie de prière intime avec Dieu dans le lieu secret. Ensuite, 8e conseil, jetez tous les MP3 de musique du monde que vous avez et n'écoutez que de la musique chrétienne. 9e conseil, témoignez de votre foi. Et le dernier, recevez le baptême du Saint-Esprit.
Merci. Merveilleux.
Amen. J'ai l'impression qu'on vient de faire un marathon spirituel. Pas mal quand même, pas mal. 5 points fondamentaux partagés dans une pensée. Bravo, chérie. C'était un beau marathon.
Mm-hmm. Si c'est utile.
C'est utile parce que ce sont des clés hyper importantes. Et puis, peut-être que certains disaient oui, ben ça, moi, je le savais, mais pas celui-là, pas celui-là. Ouais, il y a beaucoup de choses qui sont nécessaires pour grandir, pour se développer, parce que la nouvelle naissance n'est que le début. C'est comme l'étape 1 comparé à toutes les autres étapes qui vont arriver après. Il y a vraiment une suite à une croissance qu'on doit vivre, qu'on doit expérimenter, qui est indispensable en fait à la vie du chrétien. On le sait, quand on est né de nouveau, on appelle ça souvent des bébés spirituels parce que on fait une référence vraiment au bébé naturel hein, qui sort du ventre de sa mère. Ce bébé-là a besoin de lait. On va voir notre verset du jour, 1 Pierre 2:2. Comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de la parole afin qu'il vous fasse grandir en vue du salut. Alors, en vue du salut, on n'est pas en train de dire qu'on n'est pas né de nouveau, mais ce salut, on doit le cultiver, on doit le conserver. Et c'est la parole de Dieu, ce lait spirituel, en fait, qui nous est transmis dans la parole, qui nous permet de grandir. Un enfant, si on lui donne tout de suite un morceau de steak à manger, il va être incapable, il va s'étouffer, c'est impossible. Il faut commencer par ce lait. Et ce lait, c'est vraiment dans la parole de Dieu qu'on le trouve, avec les fondamentaux qu'on partage aujourd'hui. On a fait les 5 premiers points. Chérie, tu le disais, tu as 5 autres points. Le point numéro 6, c'est le Saint-Esprit doit être notre partenaire. Est-ce que tu peux développer un peu sur ce sujet?
Oh oui.
un peu.
Il y a un trésor que j'ai découvert après ma conversion, c'est bien ma rencontre avec le Saint-Esprit. Mmh. J'ai donné ma vie à Jésus et puis je méditais la Bible, je lisais la Bible, mais c'était rare les révélations, c'était parfois ennuyeux, parfois je m'endormais. Mais au moment où j'ai entendu parler du Saint-Esprit, vous savez ce que Jésus dit dans Jean 14 et Jean 16, je vous laisserai un consolateur, le Saint-Esprit, et quand il viendra, il habitera en vous.
Amen.
Et il vous enseignera toutes choses, il vous conduira dans la vérité, etc. Donc Jésus parle du consolateur, de l'associé, et j'ai découvert le Saint-Esprit, et tout nouveau converti, s'il a cette grâce de pouvoir entendre parler du Saint-Esprit, il va réaliser une chose, c'est que Jésus ne m'a pas laissé seul sur cette terre, mais il a fait habiter en moi la personne la plus extraordinaire, le Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit est là pour une chose, pour m'aider dans ma marche avec Dieu, m'aider, me conseiller. C'est vraiment le conseiller. Donc, il faut que le nouveau converti puisse se dire, mais Saint-Esprit, aide-moi aujourd'hui, révèle-moi, parle-moi à travers la parole de Dieu. Et croire que le Saint-Esprit le fait, et il le fera assurément. C'est son rôle, il est là pour nous assister et nous rendre Jésus et rendre la parole de Dieu vivante et réelle à nos yeux.
Amen, amen. On a vraiment besoin de développer cette dépendance au Saint-Esprit. Et Omer, il y a le point suivant qui est aussi très très important, cette vie de prière qu'on doit avoir, et ça c'est vraiment indispensable quand on est de nouveau.
C'est ça, parce que lorsqu'on est de nouveau, on vient dans la famille de Dieu, et Dieu désire communiquer avec nous. Et la première façon que Dieu va communiquer avec nous, c'est au travers de sa parole, et il est important pour que Dieu développe, nous parle au travers de sa parole, il faut qu'on soit dans sa présence, et sa parole... C'est quand nous prions que Dieu va vraiment nous diriger dans la parole. Au début, lorsqu'on commence à prier, c'est sûr que nos prières ne seront pas des prières extraordinaires, ça ne seront pas des longtemps, mais c'est comme un bébé dans une famille. Le bébé parle par des petits mots qu'il connaît. Mais au fur et à mesure, ce qui est intéressant, c'est que le bébé développe le langage du père, développe la langue de la famille. Il apprend à communiquer pour être entendu, mais il apprend aussi à écouter. Et sans la vie de prière qui est développée par le chrétien, il ne pourra pas évoluer dans les choses de Dieu. Parce que Dieu ne va pas lui parler, il ne va pas se fortifier dans les choses de Dieu. Et il est essentiel d'apprendre à prier. Et j'aimerais dire à ceux qui sont à nœuds de nouveau, ceux qui commencent dans le royaume de Dieu, Dieu écoute la prière. Dieu écoute les prières les plus simples, les prières les plus inusitées, les prières qu'on pense les plus inutiles. En fait, Dieu ne cherche pas des gens qui mécaniquement prient. Dieu cherche des gens qui vont causer avec lui. Il y a une différence entre prier et causer. Causer, c'est quand je me retourne vers mon épouse et puis je lui dis, ah, mais écoute, voilà, il y a telle situation qui se passe. Dieu cherche juste quelqu'un qui va lui parler en lui disant, Père Céleste, voici telle situation qui se passe. Qu'est-ce que tu penses? J'ai déjà prié comme ça, mais Dieu répond à ces prières-là. Souvent, on aime bien aller avec des prières religieuses, notre Père. Et puis, surtout quand on va à l'église, c'est pour un nouveau chrétien, on trouve un ancien chrétien. Lui, il est dans le Deutéronome et le Lévitique. Il commence Abba Père, Jéhovah Jireh. Et j'aimerais dire aux nouveaux, ne vous laissez pas impressionner.
Amen.
Dieu écoute toutes les prières, les prières les plus simples, les prières des enfants, les prières des adultes. Aimez la prière parce que c'est là que vous allez pouvoir pencher votre cœur. Et je termine en disant ceci. Ne parlez pas seulement à Dieu de vos situations. Une grande partie de la prière doit consister à parler à Dieu de vos émotions aussi. Comment vous vous sentez?
Amen.
Ce qui vous frustre, ce qui ne vous plaît pas, ce que vous ne comprenez pas. La direction que peut-être Dieu vous donne que vous ne comprenez pas, vos peurs, vos angoisses. Et dans ça, vous allez voir dans le grand livre des psaumes, 150 chapitres où les psalmistes explosent en exprimant à Dieu leurs émotions. Et souvent, notre vie de prière ne se développe pas parce que nous parlons à Dieu des situations et non de nos émotions. Et regardez un bébé. Le bébé, il ne sait pas parler, mais il sait exprimer ses émotions.
C'est vrai. c'est très vrai. Hein. Vraiment, la prière est beaucoup plus que d'une liste de demandes.
C'est ça.
De choses, Seigneur, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Et Aurélie, le prochain point, est-ce que tu as jeté tous les CD du monde quand tu es venue au Seigneur?
Eh oui, j'ai dû le faire.
T'as dû le faire. Amen. Pourquoi tu l'as fait? Pourquoi
faut faire
ça?
Il faut comprendre une chose, c'est que toute la musique déjà agit vraiment de façon particulière dans la vie des personnes. La preuve, il suffit que vous alliez dans un centre commercial et qu'on met une musique et puis sans le vouloir, vous retrouvez en train parfois de danser, d'esquisser des petites choses. Pourtant, c'est même pas une musique que vous connaissez forcément avant.
Ouais.
Donc la musique, en fait, ça joue avec des souvenirs, ça joue avec différentes choses. Et moi, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, ben moi, j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup le coupé décalé à l'époque. Mais vous ne connaissez pas ça.
Le coupé décalé. Fais-nous une démonstration.
Le coupé décalé, c'est un style, voilà.
C'est quoi?
Musical.
C'est comme ça qu'on danse. Coupé.
Donc, j'ai dû, Evelyne, quand il y avait déjà enlevé tout ce qui était de ces musiques-là, mais ce que ça crée, et ça c'est pour les gens qui gardent encore leur CD, c'est que ça crée, c'est rattaché en fait à votre ancienne vie. C'est rattaché aux choses que vous avez faites. Donc moi, quand on me mettait le coupé décalé à l'époque, mais ça me ramenait en fait à ma vie que j'avais décidé finalement d'abandonner pour suivre le Seigneur. Et là, on peut pas. La chair est encore faible quand on est nouveau converti. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. On est fragile.
Ouais.
On est dans une position où si on ne coupe pas, comme Michael a dit dans sa pensée, certaines choses, il a parlé des relations, mais ça s'applique aussi à la musique. Si on ne coupe pas définitivement ces choses-là, mais ça va nous attirer encore. On va se retrouver en train d'être attiré dans le monde. Et, et très souvent, c'est ce qui arrive, c'est qu'on a encore des amis avec qui, justement, on avait cette tendance à écouter ce style de musique et tout, qui vont vouloir ramener ça dans notre vie.
Eh oui.
Mais c'est de dire non. J'en ai fini avec ça, comprendre que quand j'ai donné ma vie à Dieu, il faut que je sois nourrie par un autre type de musique.
Et la Bible c'est ça, nous dit, on ne coupe pas toute la musique.
Oui.
C'est ça. La Bible dit, entretenez-vous par des psaumes, des cantiques, des hymnes spirituels. Parce que c'est de ça dont un bébé spirituel ou quelqu'un qui est en Christ a besoin pour s'entretenir. Il n'a pas besoin de la musique qui est inspirée par une autre source que Dieu. Et ça, il faut le savoir.
Ouais.
Parce qu'il y a des gens qui disent, oui, mais la musique, c'est une bonne musique et tout. C'est une question de source.
Ouais.
Ça vient d'où? Et si ça ne vient pas de Dieu, on sait que ça ne vient pas de Dieu. Donc, voilà.
Ça vient du diable.
Exactement. Donc, il faut s'entretenir avec des psaumes, des cantiques, des hymnes spirituels. Et en faisant ça, on va remplacer ces pensées, ces souvenirs qui nous rattachaient au monde, mais par des choses saines qui nous rattachent à Dieu.
Il y a Hosanna, l'émission que MCI TV produit. Il y a des centaines et des centaines d'émissions de louanges sur MCI TV. Et c'est ça, hein. Moi, la musique du monde, elle a failli me ramener en arrière. Moi, c'était fou, Céline Dion, Lara Fabian, Jacques Brel. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots. mais honnêtement,
c'est vrai.
Ne me quitte pas.
Pendant que j'écoutais du heavy metal, mon mari écoutait Céline Dion et Lara Fabian. Voilà.
Mais on a remplacé ça par de la louange. Je vais pas chanter de la louange, mais écoutez Hosanna et autres.
Et autres, mais parce que c'est ça, je veux quand même le dire. Il y en a qui disent, ouais, mais la musique chrétienne, c'est juste avec de l'orgue ou je ne sais quoi. Non, il y a vraiment des bons groupes de louanges. Il y a tous les styles possibles et on a déjà fait des émissions sur ça. Il n'y a pas des styles que Dieu aime et que Dieu n'aime pas. L'important, c'est le cœur, c'est le message qui est transmis, c'est la source, comme tu l'as dit. Donc, renseignez-vous auprès de d'autres personnes, si vous êtes plutôt jeune, si vous êtes un peu plus âgé. Il y a différents styles que vous aimez, peut-être, mais il y a plein de styles différents. Et le dernier point, non, l'avant-dernier point des 10 points que tu avais cités, le point 9, Nadine, l'importance du témoignage.
L'importance du témoignage, quand on est né de nouveau, quand on vient de découvrir le Seigneur, on a ce feu qui brûle en nous et qui doit brûler tout au long de notre vie.
Oui.
Mais vraiment, au début, on est vraiment rempli. Et quand on témoigne, pourquoi? Parce qu'en fait, nous, on a été rencontrés. La femme samaritaine, elle a rencontré, elle ne pouvait pas garder ça pour elle. Elle était obligée de courir, elle a couru pour annoncer la parole, pour annoncer l'évangile. Et je crois que quand on est nouvellement Seigneur, c'est tellement important dans tous les points qui ont été donnés de développer ce cœur de témoin, en fait. Et vraiment de témoigner même malgré l'adversité, j'ai envie de dire. Parce que des fois, vous êtes né de nouveau, mais peut-être que votre famille, elle est athée, ou elle est d'une autre confession, ou elle n'aime pas, c'est des choses de Dieu. Et vous pouvez même vous sentir comme si vous devez vous retenir peut-être à la maison devant ces gens-là et vraiment vous taire. Mais non, parler de la part de Dieu. Et Dieu nous a dit, Michael, je pense qu'il y a un verset là-dessus qui était dans ta pensée, que Jésus nous-mêmes a dit qu'on allait être persécutés, on allait être rejetés. Mais l'important...
Matthieu 10,
voilà. Mais l'important, c'est vraiment de continuer, de persévérer, de parler. Et lorsque l'on témoigne, et spécialement autour de sa famille, c'est témoigner de sa foi, j'ai envie de dire, oui, avec nos mots, mais aussi par notre comportement. C'est notre comportement qui va témoigner de notre foi. Ouais. Et même si aujourd'hui, votre frère, votre sœur, peu importe vous méprise, mm-hmm. parce que vous êtes maintenant au Seigneur, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 3 mois, elle reviendra vers vous. Et le témoignage que vous êtes dans votre personne va prêcher à ces personnes-là. Donc, j'ai vraiment envie de vous encourager à témoigner, à ne pas être gênée. Je me rappelle, ça n'a peut-être pas rapport, mais je vais quand même dire. Une fois, j'ai eu un ticket de parce que je n'ai pas fait un stop comme il faut,
une amende,
apparemment.
Une contravention.
Une contravention d'un stop non réglementaire.
Pas prêché aux policiers.
Mais, et je me rappelle, ça fait quelques années, mais ça m'a marqué parce que j'ai perdu des points et en plus de ça, j'ai dû payer une amende très salée. Mais toutes les fois que je passais devant à ce croisement-là, je t'en parlais, attention, le stop, je parlais cette histoire de stop à tout le monde. Pourquoi? Parce que ça m'avait marqué, ok? De la même manière, lorsque nous sommes nés de nouveau, c'est pas juste une expérience religieuse, c'est pas juste une expérience personnelle de nous-mêmes, non. C'est quelque chose qui nous marque, qu'on doit en parler à tout le monde, qu'on doit trouver un moyen dans la conversation de glisser cette information-là, de glisser cette nouvelle étape dans laquelle on est rendu. Et quand on est nouvellement au Seigneur, vraiment, il faut activer cette façon de faire, parce qu'après, ça va nous garder tout au long de notre vie, en fait.
Est-ce que je peux me permettre de rajouter quelque chose pour nos nouveaux? J'aimerais rajouter que beaucoup de nouveaux ne vont pas témoigner parce qu'ils vont dire, je ne sais pas prêcher. Ouais. Il y a une différence entre prêcher et témoigner.
C'est vrai.
Témoigner, c'est lorsque Jésus dit à la personne qui l'a guéri, va et raconte tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Mm-hmm. C'est juste raconter, comme nos sœurs, lorsqu'elles trouvent une bonne coiffeuse, elle témoigne.
ou un bon
rabais. Elle raconte juste que, waouh, j'ai été là-bas, il y a un bon rabais. Et je pense que je crois que c'est la façon la plus simple de parler à nos nouveaux convertis. Raconter ce que Jésus a fait pour vous, le changement qui s'est passé en vous. Et même en le faisant, quand votre famille n'est pas convertie, ça va sonner moins agressif que d'essayer de les prêcher et faire une comparative entre leur religion et ce que vous avez découvert. Racontez simplement. Soyez un bon interprète, une bonne personne qui raconte simplement ce que Jésus a fait dans votre vie.
Oui, très bon point, Omer, c'est vrai. Et le dernier point de notre marathon pour nouveaux convertis, j'espère que vous n'êtes pas trop essoufflés à la maison, c'est le baptême du Saint-Esprit, et ça, on en a besoin.
Ouais. Bon, ils ne sont pas épuisés parce qu'ils ils prennent des notes.
Bah justement, moi je suis épuisée quand je prends des notes.
C'est un peu métier. Alors oui, pour être témoin de Jésus-Christ et témoigner, effectivement, il faut de l'assurance. Et ce qui nous donne de l'assurance après l'expérience de la nouvelle naissance où le Saint-Esprit vient habiter en nous, c'est le fait d'être rempli du Saint-Esprit, baptisé du Saint-Esprit. Et c'est vrai que c'est comme si on avait l'habitude, après notre nouvelle naissance, avant la nouvelle naissance, on marchait. Maintenant, on a une bicyclette. Et avec le baptême du Saint-Esprit, c'est comme si on roule dans une bonne voiture. Donc, on va beaucoup plus vite, on va beaucoup plus loin.
Amen.
Et c'est essentiel, le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu qui vous remplit et elle ouvre la porte à des dons spirituels. Elle ouvre la porte à la plénitude de Dieu. Elle ouvre la porte au parler en langue. Les disciples, Jésus a dit à ses disciples, attendez la promesse du Père, le Saint-Esprit, qui viendra sur vous et vous serez mes témoins. Et ils étaient là dans la chambre haute, ils priaient. Et ils étaient avant assez peureux, assez timides, ils avaient des difficultés. Le Pierre, qui avait été lâche, qui avait renié Jésus, tout à coup, après, devant 3000 hommes, se retrouve plein d'assurance et parle avec assurance. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Ce n'est pas la nouvelle naissance. Ils sont nés de nouveau avant, lorsque Jésus souffla sur eux. Souffla en eux. Et après, là, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Et c'est une nouvelle assurance, une nouvelle dimension, une nouvelle puissance, une nouvelle révélation. Il y a une vie abondante qui déborde de nous. Donc, le conseil que je vous donne, c'est recevez le baptême du Saint-Esprit. Plusieurs reçoivent à travers des émissions qu'on peut produire. Vous pouvez le recevoir seul dans votre chambre aussi en demandant au Seigneur. Mais souvent, les personnes le reçoivent dans leur église locale en demandant au pasteur ou à quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, qui a reçu lui-même le baptême du Saint-Esprit, de prier pour lui. Voilà, mon frère, prie pour moi, je veux le baptême du Saint-Esprit. Et là, vous sentirez le Saint-Esprit vous immerger, vous parlerez en d'autres langues et vous pourrez parler en d'autres langues pendant vos temps de prière, c'est juste merveilleux. Vous dites des mystères sur votre fille, ça vous édifie, ça vous remplit. Et entretenez ensuite ce baptême du Saint-Esprit en ayant une relation saine avec Dieu. Et une fois que vous l'avez reçu, ça se renouvelle, renouvelle de gloire en gloire.
Amen, amen. Bon, je pense que nos amis à la maison sont bien, bien équipés, mais il y en a qui nous disent « je n'arrive pas à méditer la parole de Dieu, je suis trop distrait ». Omer, comment éviter les distractions en méditant la parole de Dieu? Question de Patrick de la Centrafrique. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'attache à son lit jusqu'à ce qu'on ait fini de lire notre Bible au complet?
Jusqu'à ce qu'on se réveille le lendemain.
D'abord, Patrick, merci pour la question. Je pense que la question touche autant les nouveaux convertis que ceux qui sont dans la foi depuis longtemps.
On vit dans un. C'est du vécu.
On vit dans un monde d'extrême sollicitation. Je vais donner 5 conseils, puis à la fin, je vais donner une formule qui est vraiment très simple à retenir, qui va pouvoir nous aider.
Bon. Ça fera 15 conseils.
Voilà. Donc, premièrement, je pense que avant de pouvoir éliminer la distraction, il faut comprendre qu'il faut choisir un endroit régulier où on lit la parole. C'est vraiment le secret. C'est comme quand on étudie. C'est le même principe. Si on étudie toujours au même endroit, ben, on ne va pas regarder le même poster 5 fois. On l'a déjà vu. Donc, il faut... La Bible dit dans Luc 22-39 que Jésus allait régulièrement à la montagne. Mmh. Alors, il faut choisir un endroit régulier où on va aller prier, régulier où on va rencontrer le Seigneur. Ça devient notre lieu secret. Moi, je me souviens, à un moment donné dans la maison, eh bien, j'avais pas tellement de place pour le lieu secret. J'avais débarrassé tout ce qu'il y avait dans le placard. Mm-hmm. Et puis, je me mettais dans le placard entre quelques chaussures et quelques, voilà. Et
comme
voilà.
Mon mari,
et puis, je m'enfermais littéralement. Je fermais, j'emmenais tout ce dont j'avais besoin de manière à ce que je ne sorte pas. Si j'ai besoin d'une bouteille d'eau, j'amène la bouteille d'eau là-bas. Je ne sors pas. Je pouvais rester toute une journée dedans juste pour me dire que c'est mon temps, mon lieu à part. Mmh. Et le corps obéit à la discipline. En fait, le corps, il faut le discipliner. Surtout lorsqu'on vient, on vient du monde, on vient d'un système pour que le corps accepte la discipline de la méditation, de la parole de Dieu, ça prend de lui imposer, en fait, la discipline de la régularité du lieu. Mmh. La deuxième des choses, ben, pour pouvoir avoir du succès aussi dans la méditation de la parole, ben, il faut nettoyer l'endroit où vous allez aller prier. Mmh. Je vous donne encore un exemple classique. Un jour, je suis en train de prier, je suis à genoux. Puis pendant que je me mets à genoux en train de prier, je me déplace un peu. Mon genou, il cogne un petit caillou de sable qui était là. Je vous garantis que ma distraction était complète, quoi. Parce que pourquoi ce caillou est là? Comment? Et le Saint-Esprit m'a enseigné par là. Ben, il faut nettoyer. Jésus dit, il dit que quand tu pries, entre dans ta chambre, mais il faut que ta chambre soit propre. Tu dois la nettoyer, tu dois enlever tout ce qui est élément de distraction pour que quand tu viens dans cet endroit-là, il n'y a rien qui t'enlève de là.
C'est vrai.
Donc, comme ça, au moins, ça permet que tu aies concentré. Si tu as besoin d'entrer dans cet endroit-là, tu sais que le sol est nettoyé, il n'y a pas de poster qui te distrait, peut-être que tu as enlevé, tu sais que la télécommande de la télévision est à l'extérieur du lieu. La troisième des choses, c'est la préparation. On ne peut pas aller dans la méditation de la parole de Dieu sans préparation. Il y a des outils essentiels à avoir. Je suis un spécialiste des crayons de couleur, j'en achète tout le temps. Crayons de couleur, stylos, tout ce que vous avez besoin doit être dans votre lieu secret. De manière à ce que, quand vous allez là-bas, vous avez ce dont vous avez besoin. Avez-vous besoin de bouteilles d'eau? Ben, cherchez une bouteille d'eau. Avez-vous besoin d'aller à la toilette avant d'aller? Allez-y. De manière à ce que c'est le temps qui est préparé pour ça. Donc, c'est très important d'avoir une préparation. La préparation garantit justement le succès. Là, on parle même pas que vous avez encore lu la Bible. C'est juste les petites choses qui font que les petites distractions de tous les jours sont éliminées. Cette préparation va vous aider à vous focusser maintenant sur le temps de méditation. Quatrièmement, fermez les appareils électroniques.
Oh oui.
Fermez. Je déconseille, trois fois je l'ai dit, je déconseille quatre fois qu'on médite la parole de Dieu avec l'électronique. C'est l'ennemi de la parole de Dieu. Prenez la Bible classique, tournez la Bible, lisez la Bible. Je n'ai pas dit de ne pas écouter. Quand on écoute, c'est une autre chose. Mais quand on veut méditer pour les trésors des Écritures de venir à nous, il faut ouvrir la Bible, il faut mettre notre électronique de côté. Je déconseille même de prendre des notes avec notre téléphone parce qu'à un moment donné, voilà, les médias sociaux, ils vont vouloir nous parler. Voilà, donc, il va falloir, ne le mettez même pas en mode avion, mettez-le carrément de côté, prenez la Bible, prenez un stylo, la façon classique, et écrivez.
Ouais.
Parce qu'il y a une connexion entre ce qu'on écrit et notre capacité de mémoriser. Donc c'est très important d'avoir de fermer nos appareils électroniques pour se concentrer. Et finalement, le plus important et le plus merveilleux, utiliser une musique d'ambiance. Là maintenant, je sais que certains vont sur certaines chaînes des médias sociaux pour mettre de la musique. Regardez. À un moment donné, vous aurez la publicité qui va jouer. Et cette publicité qui va jouer, elle va vous jouer quelque chose qui est vraiment contraire à ce que vous voulez. Alors, je vous conseille de vous faire vos playlists avant. Personnellement, j'ai près de 20 playlists. Dépendamment de ce que je veux faire, de comment je me sens, c'est qu'est-ce que je vais aller chercher. Alors, parfois, j'ai un playlist qui est plus doux. J'ai un playlist qui est un peu plus avec des paroles dedans. Mais ayez quelque chose qui va vous aider à vous maintenir dans ce lieu-là. Et cela va vous permettre justement de valoriser le lieu secret. Et en venant, c'est que dans votre subconscient, le subconscient saura que cet moment-là, il est gardé. Ce moment-là, il est propre. Alors, je termine avec ma formule. Premier secret, c'est le lieu plus la préparation plus la régularité égale distraction éliminée. Donc, je répète, le lieu plus la préparation plus la régularité de l'action détermine maintenant que la distraction est éliminée et on aura des méditations de qualité. Les chrétiens les plus forts, ceux qui ont la profondeur dans la parole de Dieu, c'est les chrétiens qui ont développé l'art du lieu secret. Et malheureusement, dans le corps de Christ, c'est quelque chose qui a disparu aujourd'hui. On ne médite pas en suivant une prédication sur Internet. On médite en étant seul avec Jésus, dans le lieu secret.
Amen. Merci, Omer. Merci beaucoup. Si vous vous posez des questions, comme Patrick, vous pouvez nous écrire à l'adresse pasteurjayunequestion@emcitv.com. Nous allons maintenant découvrir notre livre de la semaine.
Découvrez le livre de la semaine. Disponible sur emciboutique.com.
Alors, cette semaine, le livre de la semaine est de Kenneth Hagin. Ça s'appelle « Bienvenue dans la famille de Dieu, un guide fondamental pour une vie remplie de l'Esprit ». Et vraiment, ce livre est merveilleux. Comme j'ai dit au début de l'émission, c'est sûr qu'on parle à des nouveaux convertis. Et c'est hyper important. Omer a cité l'exemple du bébé. Et c'est tellement vrai quand il a dit qu'un bébé va parler le langage de sa famille.
Oui.
Tu vois, si on parle français dans la maison, ce serait bizarre que le bébé, quand il se met à parler, il parle mandarin. C'est comme, il va parler la langue de la maison. Et vraiment, quand on est de nouveau, on est dans cette merveilleuse famille, comme Michael a dit, la famille de Dieu. Et nous devons développer nous. En plus, même un bébé ne connaît rien. Mais nous, on est comme des adultes, on veut dire on est des bébés spirituels, mais il faut désapprendre ce qu'on a appris dans le monde pour apprendre maintenant le langage de la famille de Dieu.
Oui.
Donc, ce livre est merveilleux parce qu'il donne vraiment les bases d'un nouveau chrétien. Mais en plus, comme j'ai dit, même pour un chrétien qui est un chrétien de longue date, j'ai envie de dire, il y a quand même des points clés, des remises en question, même en tant que chrétien, qu'on peut faire de comment on a compris la nouvelle naissance. Le pasteur Hagin, vraiment, il parle de façon très claire. C'est quoi la nouvelle naissance avec des versets à l'appui, le baptême du Saint-Esprit qui est tellement important, le parler en langue qui est tellement important, l'importance des paroles, il en parle aussi parce que justement, quand on est dans le monde, on parle peut-être à la légère. On ne sait pas que la vie et la mort sont vraiment au pouvoir de la langue.
Oui.
Et vraiment, il vient vraiment expliquer parce qu'il dit que souvent, on apprend la foi très, très facilement. On apprend l'onction aussi quand on vient au Seigneur. Mais la puissance des paroles, c'est peut-être quelque chose qu'on met moins l'accent dessus. Donc, des fois, en tant que nouveau converti, en tant que chrétien, justement, on a des portes ouvertes et des choses qui se passent dans nos vies. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, de notre propre bouche, on n'a pas compris que on a vraiment une puissance dans les paroles qui sont dites.
Oui.
Il donne aussi des points clés, parce que comme j'ai dit, c'est un livre aussi pour les nouveaux convertis. Donc, il donne les points clés pratiques de quand on va dans la lecture de la parole de Dieu, dans la méditation de la Bible, comment faire. Il conseille aux nouveaux convertis de commencer par lire les épîtres. Parce qu'il dit que les épîtres sont des lettres qui sont écrites aux églises. Donc, c'est des lettres qui sont écrites à nous, les chrétiens, qui nous apprennent comment vivre. C'est sûr que quand on vient au Seigneur, on nous dit toujours de commencer par lire l'évangile de Jean. Et puis après, de lire les autres évangiles. C'est très bien parce que ça parle du Seigneur Jésus. Mais par la suite, les épîtres vont nous expliquer la vie de tous les jours, la vie du chrétien de tous les jours. Les épîtres vont parler des disputes, les épîtres vont parler des égarements, les épîtres vont parler de l'honneur, de plein de choses dans la vie quotidienne, en fait, parce que ces personnes-là, ils étaient dans le monde, ils ont accepté le Seigneur et Paul a dû les expliquer plein de choses.
On voit vraiment
et donc c'est hyper important de comprendre ça. Dans le livre, il y a beaucoup de versets.
Ça nous remet même en question sur notre foi.
Pour expliquer vraiment plein de versets, pour expliquer plusieurs choses. Ce que je voulais aussi mentionner, c'est dans la lecture des Épîtres, il donne un conseil, il dit de prendre tous les versets où est-ce que c'est écrit en lui, par lui, en Christ,
tous ces
versets-là,
et de se les approprier
en fait pour comprendre notre nouvelle identité, en fait, qu'en lui, nous sommes assis dans les nuages, que par Christ, nous avons été libérés, par toutes ces choses, en fait, pour se les approprier. Il dit un peu comme ma mère a dit dans sa réponse, que quand on lit la Bible, il faut souligner les versets, il faut les noter, il faut les méditer, il faut se les approprier, et il faut les confesser de notre bouche. Et vraiment, c'est un Dieu qui agit, lui, il a évidemment un grand ministère qui a énormément d'expérience. Donc, dans le livre, plusieurs fois, il va aussi donner des exemples, des choses qui sont arrivées dans l'église, où est-ce qu'il était, des petites anecdotes comme ça, pour que nous-mêmes aussi, on puisse réaliser ces choses-là. Donc, je vous conseille ce livre qui est disponible sur emciboutique.com. Bienvenue dans la famille de Dieu.
Merci, Nadine.
Qui sera en Algérie. Et puis, bonne nouvelle aussi, à partir des épîtres. Après-demain,
il faut bien choisir la traduction
sur le satellite
dans le nouveau
convertible. Il va donc rien rejoindre toute l'Afrique du Nord, l'Algérie, donc ils peuvent
conseiller laquelle
sur Nalsat, mais aussi le Maroc, la Tunisie,
la NBS, avec une Bible commentée, l'Afrique du Nord. C'est bien qu'on ne comprend pas un verset, on peut lire les commentaires.
On avait même parlé de la parole du Amen. Et donc, dans le week-end, Daniel, qui interpelle justement, il y a des chrétiens qui vont venir de différents pays, comme les cinq pays qui sont mentionnés là, et qui vont donner leur témoignage aussi de ce qu'ils vivent comme persécution et comment ils gardent la foi, ils sont à contre-courant, ils croient à contre-courant parce que c'est à contre-courant de leur famille. Il y en a qui sont vraiment rejetés complètement de leur pays, des idéologies de leur pays, ils sont vraiment à contre-courant, mais ils persévèrent. Et donc vraiment, c'est très très intéressant. Je veux vraiment mentionner qu'il y a vraiment des témoignages des chrétiens qui vont venir parler de façon concrète, et aussi il y aura de la louange, des stands, des activités pour les jeunes, des programmes pour les enfants.
Aurélie,
donc allez rapidement
aujourd'hui
sur portesouvertes.fr, inscrivez-vous et participez en grand nombre. Deuxièmement, je parlais le dimanche 10 novembre, donc le week-end après, le dimanche après, donc le week-end vous interpellez. Le dimanche suivant, vous vous mobilisez dans votre église locale pour le dimanche de l'église persécutée. Tellement important, encore une fois, c'est un événement qui dure depuis 20 ans où vraiment les églises se rallient pour prier, pour témoigner, pour vraiment faire plusieurs événements autour des chrétiens qui sont persécutés.
C'était pour moi, vu que j'avais essayé plusieurs fois, rien, je n'arrivais pas à prier en langue. Je me disais, c'est pour les pasteurs ou c'est pour d'autres chrétiens, mais ce jour-là, l'Éternel m'a baptisé et à travers les conseils de Jérémie Soudril, j'ai pu recevoir le baptême du Saint-Esprit et j'ai parlé en langue pendant plus de 30 minutes, moi qui n'arrivais pas à prier pendant plus de 10 minutes. Les jours qui ont suivi, le Saint-Esprit m'a conduit hors de chez moi, dans la chambre d'un cousin, pour passer des heures pendant des nuits à chanter en langue, à prier en langue, à lire la parole. C'était vraiment magnifique. Le Saint-Esprit m'a montré des songes, des visions sur ce qu'il veut que je fasse pour mon entourage, pour mon prochain, pour ma famille. Il a fait tellement de choses. J'ai renouvelé ma soif du Saint-Esprit, ma soif pour Dieu. Et je rends grâce à l'Éternel, car sans lui, tout ça ne serait pas possible. Alors je dis que Dieu vous bénisse abondamment et que l'œuvre continue. Gloire à l'Éternel.
Ah, moi j'aime trop son témoignage. Oui. C'est authentique.
Gloire à Dieu, comme il dit, mais c'est ce qui se passe en fait quand on laisse l'Esprit de Dieu rentrer dans sa vie. Et comme on a vu avec Zamir, les faux raisonnements qu'il avait ont été balayés. Il a commencé à se laisser conduire par le Saint-Esprit dans des temps de prière. Vraiment, n'ayez pas peur de ces temps. Si vous aussi, vous écoutez cette émission, que vous êtes un nouveau converti et que le Saint-Esprit vous pousse à prendre des temps. Parfois, on ne sait même pas reconnaître ces temps-là. Mais il faut les prendre vraiment. Il a permis aussi de renouveler sa soif, tout simplement, qu'il avait de Dieu. Mm-hmm. Et on voit que quand le Saint-Esprit arrive dans une vie, mais il bonifie tout simplement la vie de la personne dans laquelle il est rentré.
Oui, vraiment. Merci Aurélie pour ce beau témoignage. Merci à Zamir qui nous l'a envoyé. Si vous voulez nous envoyer vos témoignages, vous pouvez aller tout simplement sur emcitv.com/ou/ pour les Québécois, témoignages. Et vous pouvez nous raconter ce que le Seigneur a fait dans votre vie au travers des émissions de MCITV. En tout cas, on est ravis d'avoir pu faire cette émission pour vous. Vous qui êtes nouvellement convertis, vous qui venez de connaître le Seigneur, on se réjouit énormément pour vous. Et on croit que vous allez mettre en pratique tous ces conseils qui vous ont été apportés. Et le dernier conseil, et pas des moindres, ayez une relation personnelle avec Jésus-Christ, votre Seigneur et votre Sauveur. Sachez combien il vous aime et combien il veut transformer encore plus votre vie. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve demain. Je ne vous ai pas donné le thème. Demain, que signifie marcher dans l'amour sera notre thème et nous aurons une rubrique famille avec Annabelle sur la réconciliation. Allez, à demain. Bonjour chez vous.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCITV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.